Bonjour et bienvenue dans ce 63e épisode de Ces garçons-là. Alors cette semaine, eh bien je vous propose de rencontrer Christophe. Il a 35 ans, il est parisien et avec lui, nous évoquerons notamment le harcèlement scolaire et les violences qu'il a subies, mais aussi la différence, les différences qui peuvent générer des haines et notamment de l'homophobie. Attention, certaines scènes vécues et évoquées dans cet épisode sont extrêmement violentes et peuvent choquer. Christophe nous parlera aussi de la pansexualité, mais aussi de la musique, avec et grâce à laquelle il s'est désormais reconstruit. Grandir en milieu rural, s'émanciper en ville, les premières fois, le coming out pansexuel, les lieux gays et LGBT à Paris et en province, mais aussi la paternité et le militantisme associatif. Vous allez l'entendre, l'histoire de Christophe est aussi un peu notre histoire. Bonjour Christophe.
Bonjour Nicolas.
Quel est le plus ancien souvenir que tu aies de toi étant jeune?
Je crois que c'est la question que j'appréhendais le plus.
T'y es-tu préparé?
On n'est jamais préparé à cette réponse, mais moi le souvenir que j'ai le plus ancien, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'était au collège. Lorsque les élèves se regroupaient autour de moi, tu avais 400 élèves qui se regroupaient autour de moi pour me regarder, me faire casser la gueule.
Tu avais quel âge à cette époque-là?
Je vais être en 5e, 4e. J'étais dans une petite bulle jusqu'à la fin de l'école primaire. Et à la fin de l'école primaire, j'ai reçu une lettre de mes amis, soi-disant, qui m'insultaient, qui m'indiquaient qu'elles étaient contentes de plus voir ma sale gueule de tapette. Et à partir de là, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, c'est le moment où j'ai perdu mon innocence, où tu sors de ta petite bulle confortable, familiale, de l'école primaire, et où tu es confronté au monde extérieur, à la ville, parce que j'étais dans un petit village, mon école primaire était dans un petit village du Berry. Et la transition entre l'école primaire et le collège a été assez brutale en réalité. Et c'est même pas la découverte de ce nouveau monde, c'est le fait de découvrir le monde actuel qui n'était pas celui auquel...
Tu t'y attendais pas?
Non, parce que c'est violent. Tu sors de l'école primaire et tu reçois quelques jours après une lettre d'insulte. Tu comprends pas pourquoi, parce qu'en plus, t'appelles déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais pas trop, voilà. Tu t'y attaches. Voilà, tu sais pas en réalité pourquoi tu reçois ça, et puis quand tu arrives au collège, tu comprends un petit peu mieux que tu es différent, que tu as des manières, que tu n'es pas le symbole masculin du jeune, tu ne te comportes pas comme devrait se comporter un garçon de cet âge.
Et c'est à ce moment-là que tu vas commencer à te questionner sur toi,
Tout à fait.
C'est lié à ça, à cet acte-là. Tu as pu en parler de ça, de cette lettre autour de toi? Est-ce qu'il y a des oreilles autour de toi pour en parler, pour écouter?
Ma mère, et c'est tout. Parce que t'en parles pas, puis même ne m'a jamais posé de questions par rapport à mon orientation sexuelle. Enfin, j'étais très jeune. Tu te questionnes forcément, pourquoi on m'envoie ça? Qu'est-ce que j'ai fait?
Et qu'est-ce que t'avais fait? Rien.
Mais rien, j'étais juste moi-même, tout simplement. Je leur en veux pas, parce qu'elles étaient peut-être dans un environnement familial qui était un peu hostile peut-être à l'homosexualité, ou en tout cas à la différence. Une d'elles, je pense, m'avait, quelques années plus tard, présenté des excuses assez rapides, mais c'est pas quelque chose sur lequel je m'étais attardé, puis c'était passé, et puis j'avais évolué aussi de mon côté. Il y a quelques semaines, j'ai entendu un interview de Loïc Noté qui expliquait que le fait qu'il avait été aussi harcelé à l'école, ça avait eu comme conséquence, lorsqu'il marchait sur un trottoir et qu'il voyait un groupe de jeunes, il avait tendance à changer de trottoir. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Waouh, moi aussi, c'est exactement ça ». Et ça m'a fait plaisir parce que... Enfin, plaisir. Pas pour lui, désolé.
Mais j'étais pas seul,
mais
en tout cas, à vivre
je
ça.
Je suis pas seul à vivre ça. Et peut-être qu'il y a un travail psycho à faire aussi de mon côté.
Et t'as essayé, à l'époque, quand t'arrives au collège et que ce harcèlement commence, parce que c'est là où ça va vraiment, vraiment commencer, et tu l'as dit, des actes de violence dans la cour de récréation, de nombreux enfants sur toi, autour de toi. Est-ce qu'il y a des oreilles? Est-ce qu'il y a des enseignants qui sont là pour écouter? Est-ce que tu vas essayer d'en parler, ne serait-ce que peut-être à tes proches déjà, à la famille, d'expliquer ce qui se passe?
Personne.
C'est que tu veux pas
Mes
le faire?
Mes parents n'ont jamais su ce qui se passait au collège. J'en ai jamais parlé, j'ai toujours tout gardé pour moi.
Les coups, les bleus, les violences verbales qui parfois font bien plus mal d'ailleurs que les coups. Jamais t'en as parlé.
Alors, je me faisais pas taper tous les jours.
Non, bien sûr.
Et j'avais pas de séquelles. Et même cette fois que j'ai abordé tout à l'heure avec les 400 élèves autour de moi, j'en avais jamais parlé à mes parents. Ils le savent pas, tout ça. Mais parce que tu comprends pas, tu sais pas encore une fois pourquoi on te fait subir ça. Le fait de t'insulter tous les jours, de te faire des croche-pattes, de te balancer des cartables, d'ouvrir ton cartable dans les escaliers pour faire tomber des cahiers. Tu sais pas pourquoi il y a cet acharnement.
Pourquoi toi et pas un autre?
Pourquoi moi et pas un autre? L'effet de groupe où quand on a un qui s'en prend à un autre, c'est le moment aussi de rajouter une couche pour me faire bien voir, tu sais, pour former un groupe, tous contre lui, cette mise en boîte au collège qui est craint, hein, souvent. Pas que par moi, mais par beaucoup de personnes en réalité.
Tu réussis, dans ces années-là, à conserver une petite part de rêve, une part de fantaisie, une part de quelque chose, d'envie, de projet.
Par la musique.
C'est la musique. Elle arrive à quel âge dans ta vie, la musique?
Elle arrive en cinquième. J'avais commencé à rentrer dans la chorale de mon collège. Et arrivé en troisième, je suis pris dans un opéra rock de Jean-Marc Ledoux, qui s'appelle Toute la vie en parle. Et c'est là où j'ai découvert mon petit univers, où j'ai commencé à me construire avec l'esprit d'un enfant de cet âge. Mais c'était mon petit échappatoire. Et je rentrais chez moi, je chantais, j'écoutais des musiques de Anne Mason, par exemple, de Dorothée, de toutes ces personnes de ma génération. On écoute. Et du France Gall aussi, voilà. En tout cas, je rentrais chez moi, je chantais. Le week-end, je chantais. Le soir, je chantais. En vacances, je chantais. Et c'était mon échappatoire à moi parce que, encore une fois, j'ai grandi dans un petit village de 200, 300 habitants. Et il n'y avait personne, en réalité. Personne ne me ressemblait. Personne avec qui parler. Mes premiers amours, je les ai eus à 19 ans quand même, tu vois.
Tu dis ça de façon un peu malicieuse et avec l'arrière-pensée de se dire c'est un peu tard, mais y a-t-il un bon moment pour ça?
On m'a supprimé 5 années de ma vie. Quand on t'insulte de PD, de tapette, tu commences à comprendre à un moment.
Alors que tu t'étais pas forcément du tout posé ce genre de questions?
Non, parce que j'étais amoureux de... Enfin, d'amoureux. Oui, j'avais des attirances pour des filles, pour des garçons aussi. Hein. Ça arrivait après, en plus.
En plus, c'est arrivé après?
Oui. Est-ce que j'ai été influencé par ça? Ça, je saurais jamais.
Et ben voilà.
Et je me suis posé la question plusieurs fois. Et en réalité, Nicolas, je pense que... Le genre de la personne ne m'a jamais... J'ai jamais été attiré par un genre. J'ai toujours été attiré par une personne, par son tempérament, par le charisme qu'elle pouvait avoir. Donc, je me suis jamais défini vraiment comme gay ou hétéro, mais ni au collège, ni plus tard en réalité.
Mais ça, on va y revenir, c'est la pansexualité. Et tu as fait d'ailleurs un coming out pansexuel. Mmh. Tu as beaucoup mentionné ce petit village dans lequel tu grandis. Mmh. Est-ce que c'est plus dur selon toi de grandir et de se découvrir différent, et ce d'ailleurs quelle que soit la différence, dans un milieu rural que dans un milieu urbain?
La particularité que quand tu es dans un petit village, c'est que tout le monde se connaît, tout le monde parle.
Ouais.
Et quand déjà tu sais que, quand tu subis déjà tout ce que je subissais au collège, j'avais pas envie que ça ait des répercussions dans mon quotidien, dans ma bulle familiale ou en tout cas dans là où j'habitais.
C'est marrant parce que tu cherches à protéger justement cet environnement familial avant toi-même.
Oui.
C'est étonnant. C'est-à-dire que tu mets d'abord tes proches à l'abri, tu préfères prendre sur toi.
Oui, parce que je ne voulais pas que ma famille ait honte de moi. Non, je voulais pas en parler. Je voulais pas que ça se sache.
Mais puisque tu ne savais pas toi-même ce que tu étais...
Je savais que j'étais différent des autres.
Oui, mais...
Mais je ne l'étais pas...
Tu ne l'étais certainement pas aux yeux de tes parents, par exemple. Qui ne t'ont jamais considéré probablement comme quelqu'un de différent. Si ce n'est comme leur simple fils. Ce qui est déjà magnifiquement beau d'amour. Mais pas différent. Tu restais leur fils.
Oui.
T'aurais pu leur en parler.
Il n'y avait pas que mes parents dans mon petit village.
Oui.
Il y avait des oncles et tantes, des
cousins,
cousines.
Bien sûr, mais je pense à cette cellule familiale en tout cas. Et toi, tu as voulu protéger, mettre à l'abri toute cette cellule familiale.
Oui, parce que...
En prenant sur toi et en acceptant de souffrir.
Je ne voulais pas que ma famille ait honte de moi, sachant qu'il y avait déjà à l'époque des réflexions homophobes dans mon entourage familial.
D'accord. Il y avait déjà,
bien sûr,
au sein de la famille,
oui,
déjà une sorte d'homophobie.
Tantes, bien sûr, qui ne m'étaient pas adressées, mais qui, lorsqu'on voyait deux hommes à la télé, c'est des homos, les expressions assez standards, c'est un PD, va
une
te faire enculer.
Une homophobie indirecte.
Complètement banalisée.
Banalisée.
Bien sûr.
Qui ne t'était pas destinée, mais qui était déjà présente dans la cellule familiale. La cellule familiale élargie, bien sûr.
J'ai entendu ma grand-mère paternelle un jour dire à deux homos, deux hommes entre eux, c'est dégueulasse, c'est contre nature. Voilà. Moi, j'ai coupé les liens avec cette partie de la famille, mais même quand tu entends ça de la part de tes propres grands-parents, même si ça ne t'est pas adressé, tu te sens concerné forcément.
Quand est-ce que tu vas te trouver et commencer peut-être à te définir? Il y a ces 5 années qui sont des années, tu l'as dit tout à l'heure, volé, je reprends tes mots. Donc j'imagine impossible de se définir, impossible pour toi de te construire durant ces 5 années. Elles sont violentes, elles sont extrêmement dures. Donc tu peux.
Les résultats scolaires
sont en chute libre.
Complètement.
À aucun moment ça n'inquiète tes parents.
Non.
À aucun moment il y a une interrogation.
Non.
On se dit pas, on se dit juste Christophe n'est pas intelligent. Pas fait
non,
pour l'école,
mes
non.
Parents n'ont pas fait beaucoup d'études non plus. Hein.
D'accord.
Donc c'était, faut travailler à l'école, faut bûcher, et puis voilà. Puis si t'es pas doué, c'est pas grave. À la fin du collège, tu feras autre chose.
Ouais.
Tu feras un apprentissage.
Ces 5 années, elles te sont véritablement volées et elles sont volées pour toujours. À partir de quand, toi, tu vas commencer réellement à pouvoir réfléchir sur toi et peut-être te poser les premières questions?
Je pense que j'ai commencé aussi au lycée. En plus, la bulle musicale était plus importante au lycée parce que j'allais au conservatoire, il y avait vraiment, j'arrivais à m'échapper et puis je me faisais moins emmerder. Au lycée, j'étais dans un lycée...
Tu commençais à devenir plus grand aussi?
Oui. Oui. Mais aussi parce que il y a plus de tolérance, je trouve, au lycée qu'au collège. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais une moquerie ni quoi que ce soit, mais commencer à me découvrir au lycée. Et puis ensuite, quand j'ai quitté le Berry pour venir à Tours, justement, Tours a été ma ville d'émancipation, avec mes premiers lieux gays. On disait gays à l'époque, maintenant on dirait plus des lieux LGBT+. Mais oui, c'était mes premières rencontres, mes premières expériences avec des garçons aussi.
Qu'est-ce que tu as trouvé dans cette grande ville? L'anonymat, la ressemblance avec d'autres aussi, plus
ma
d'oreilles
communauté.
Pour t'écouter.
Ça a été une rencontre avec ma communauté.
C'est vrai? Elle se fait comment, cette rencontre avec la communauté? Tu t'en souviens? Tu te souviens de tes premières soirées, de tes premières rencontres à Tours, pour
c'était
le coup, puisque tu mentionnes Tours.
C'était au GI, tes premiers amis qui sont comme toi. Tes premières relations aussi, parle de sexe.
Ça te fait pas peur?
Mes premières sorties, non.
Tu te sens en confiance dans la communauté?
Je me sens en confiance. Alors, je n'avais pas que des amis homo, hein. J'avais aussi des amis hétéros avec qui
bien
on s'entendait vachement bien.
On n'est pas hétérophobe?
Absolument pas. Mais l'hétérophobie n'existe pas. Mais... Non, ça a été vraiment, je pense, les premières années dans lesquelles je me sentais en sécurité et dans lesquelles j'ai commencé à me construire, tout simplement.
Tu commences...
C'était à une époque, Nicolas, où il n'y avait pas de centre LGBT. C'était une époque où il y avait un bar, il y avait la petite chose, il y avait le GI, et puis c'est tout. Et puis c'est tout de mes souvenirs. Ensuite, pour quelqu'un qui fait son coming out aujourd'hui, qui veut s'émanciper, qui vient à Tours, il y a plusieurs structures, il y a le centre LGBTI, il y a plusieurs... La communauté est plus présente et en tout cas, elle est plus facilement trouvable.
Elle est visible.
Elle est davantage visible, tout à fait. Avant, on n'avait pas, il n'y avait pas Grindr, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, c'était des lieux très, très précis et tu devais sortir le soir pour aller à cette rencontre.
Justement, tu parles de Grindr, mais est-ce que tu penses que Grindr, pour un jeune qui serait... allez, on s'imagine au jeune Christophe qui arrive dans une grande ville comme ça. Est-ce que tu penses que Grindr, c'est aussi un premier point d'accès à la communauté qui peut être intéressant, ou est-ce qu'au contraire, ça peut être dangereux ?
L'avantage, c'est que même en milieu plus rural, Grindr, ça fonctionne. Alors oui, t'as pas 40 mecs au kilomètre carré, mais en tout cas, tu peux déjà parler. Tu peux discuter, tu peux échanger. Tu peux rencontrer aussi des personnes. Après, quand t'arrives en ville et que c'est ta première... ouverture de l'application, oui, peut-être que ça peut te faire tourner la tête parce qu'il y a peut-être trop le choix. Donc après, tu vas commencer à filtrer tes profils. Mmh. D'ailleurs, de plus en plus, aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de profils qui vont dire pas plus que tel âge, pas de tel, pas de ci, pas de ça. Donc c'est très, très filtré en ville, je trouve.
Tu le déplores, ça ?
Je l'utilise pas. Enfin, pas à titre personnel, cette application. Je peux le déplorer pour les gens, oui. Je peux le déplorer pour les utilisateurs parce que je trouve que ça coupe un petit peu ce côté intergénérationnel qu'il pouvait y avoir dans les discothèques, dans les boîtes, par exemple.
Dans la communauté LGBT, en règle générale.
Oui.
Est-ce que la communauté LGBT n'a pas besoin de ses deux jambes pour marcher ? C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin aussi de savoir d'où elle vient. Quelles ont été les luttes passées ? Pour mieux, peut-être, aborder les luttes futures.
C'est pour ça que les échanges intergénérationnels sont très précieux. C'est important de savoir d'où on vient, comment on en est arrivé à là où on en est aujourd'hui. L'histoire du mariage pour tous, par exemple, dont ça va être les 10 ans cette année.
Mais peut-être encore plus loin, les émeutes de Stonewall, etc.
La lutte contre le VIH-Sida aussi.
Bien sûr.
Dans les années 80, qui a été très dur pour la commune, bien sûr. Il a fallu se battre pour tout un tas d'outils de réduction des risques. Hein. Le dépistage, le TROD aussi. Hein. L'accès au matériel de prévention aussi. Hein. Rappelle-toi, quand les premiers préservatifs ont été distribués aussi, c'était pas...
Gratuitement.
Gratuitement, c'était pas... Voilà.
Je voudrais qu'on vienne sur un événement en 2002. Est-ce que tu te rappelles ce qui t'arrive en 2002, ta première Pride ? Quel souvenir tu gardes de ta première Pride ? Parce que qui dit Pride, et c'est le nom de ton dernier album, et ça c'est extrêmement important, ça veut dire fierté.
C'était une découverte de voir autant de personnes de ma communauté à Paris. Pardon, je suis un peu ému. Et curieusement, c'est marrant parce que ma première Pride, j'avais un foulard sur les cheveux, une casquette, des lunettes de soleil.
Faut pas qu'on te reconnaisse ?
Faut pas qu'on me reconnaisse.
Il y avait encore une espèce de honte ou de crainte en toi, là, à ce moment-là, malgré la foule, malgré les milliers de personnes qui sont là à ce moment-là, tu te dis, on peut peut-être encore me reconnaître. Bon, depuis, ça a bien changé.
Maintenant, je l'affiche sur mes pochettes d'album. Mais oui, tu vois un peu le travail qui a été fait en 20 ans déjà.
Mais le travail, il est évidemment pour toi, Christophe, mais il est pour toute la communauté aussi.
Bien
C'est-à-dire
sûr.
Que les choses, elles ont énormément évolué. Mm-hmm. Que ce soit les Prides, elles ont énormément changé d'ailleurs en 2002. Qu'est-ce qui te poussait à y aller sur ta première Pride ? Qu'est-ce qui te donne envie d'y aller ?
Les revendications,
ouais.
Le besoin d'égalité, le besoin de ne plus se cacher. Tu vois, c'est paradoxal.
C'est marrant, hein ? Et t'y vas pourtant incognito.
Oui, parce que... C'était une époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, toujours pas.
Et pas de téléphone portable pour tout le monde, en tout cas pas avec des photos.
Tout à fait. Mais tu te dis, tu ne sais pas qui prend des photos, tu ne sais pas ce que deviennent les photos. Et si jamais ma famille ne le savait toujours pas, hein. J'en avais toujours pas parlé. Je n'avais toujours pas fait de coming out. Je l'ai fait 10 ans après. Hein. Je l'ai fait 10 ans après. Bon, j'avais eu des copains entre-temps, mais je ne l'avais toujours pas fait. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'avais un copain à cette époque-là que je cachais. Et quand il venait chez mes parents, c'était un ami. Il y avait pas, c'était pas officiellement mon petit copain.
Donc on ne se tient pas la main, on ne se touche pas, on ne se frôle pas.
Non, pas en public.
Et évidemment, rien de plus.
Non.
J'aimerais qu'on revienne sur quelque chose d'extrêmement important, et c'est lié à la Pride. Tu te définis comme artiste. Ça, on va le découvrir. Mais surtout comme artiste militant. Il est où le militantisme chez toi et à partir de quel moment tu as commencé, selon toi, à militer ?
C'est un terme qui m'a été attribué par un journaliste de Garçon Magazine et que j'avais trouvé très approprié et donc du coup que j'ai repris. Je crois que je l'ai toujours. En fait, le fait de faire passer des messages dans la musique, chanter auprès de ma communauté avec des associations, donc pour les centres, pour les prides, je l'ai toujours fait. Alors, je ne prétends pas pouvoir changer le monde avec des musiques. Par contre, la musique a cette particularité de passer partout et de laisser une trace, quelque chose. Et parler de la sexualité, de la communauté, j'ai toujours fait travailler avec des personnes de ma communauté. Des personnes LGBTQIA+. Ça, j'ai toujours travaillé sur les clips, sur les vidéos. J'ai toujours été attaché à leur donner justement cette visibilité, de travailler avec parce qu'elles me donnent beaucoup de choses aussi. Et je pense que c'est ça. C'est ma façon de militer. Alors, tu vas faire des projets pour des assos. On a fait le clip avec Le Refuge. On a fait des films avec Because. Bon, voilà, il y a tout un tas de choses que je mets en place sur mes réseaux. Mais là aussi, peut-être que c'est confortable pour moi de travailler avec ces personnes parce que je me sens pas jugée, parce que souvent elles sont aussi perturbées que moi.
Comment on milite en 2023 quand on est LGBT ?
Je ne peux qu'encourager les personnes qui souhaitent militer à rejoindre des associations communautaires. Parce que oui, on a le mariage pour tous, oui, on peut adopter, oui, mais tous les droits ne sont pas encore égaux.
Non.
Très difficile pour moi d'avoir un enfant aujourd'hui. Et je pense que c'est trop tard déjà.
Pourquoi trop tard ?
Parce qu'un enfant, c'est déjà en France, c'est long à avoir.
Enfin, par l'adoption,
tu veux dire. Ou une GPA, l'affaire à l'étranger, c'est très cher. Et puis le temps passe et... Et est-ce que j'aurai le temps aujourd'hui, à travers mes engagements, à travers ma petite carrière, de m'occuper d'un enfant ? Je ne sais pas. Et est-ce que j'ai la maturité ? Est-ce que j'ai... Je ne sais pas. En fait, j'aurais peur qu'il soit malheureux et peut-être qu'il y a une part de moi qui aurait peur que l'enfant ne soit pas fier de son père.
Je voudrais qu'on revienne sur un autre moment important dans ta vie, c'est en 2012. Tu vas faire quelque chose de très fort. Tu vas faire ton coming out, mais pas un coming out classique comme on peut l'entendre. Tu vas faire ton coming out pansexuel. Et ça va se passer dans la presse. Tu fais rien comme tout le monde.
C'est vrai.
C'est vrai. Très original. L'avais-tu prémédité, ce coming out pansexuel, ou est-ce qu'il arrive comme ça ?
Absolument pas. J'avais envoyé un dossier de presse au Nouvel Obs et René Grezin m'envoie un message. Oui, mon attention a été attirée sur le terme de pansexualité. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu peux écrire une tribune ? Bon, au début, tu dis, oui. Enfin, moi, ça me paraissait quelque chose d'assez standard. Enfin, j'avais pas de quoi faire une tribune, en tout cas. Et puis, je me suis prêté au jeu. Mais c'est marrant parce que j'avais pas du tout conscience de ce que ça allait...
De l'emballement médiatique que ça allait... Non, tu ne savais pas.
Non, ni de l'emballement, ni des réactions. Parce que c'était... Alors, pour situer, c'était quelques mois avant le débat sur le mariage pour tous. Les associations n'en parlaient pas. Les médias non plus. Même les médias LGBT. Pire que ça, on me snobait. Médias LGBT, c'est oui, non, ça n'existe pas. C'est encore une nouvelle étiquette et blablabla. Donc... On m'envoyait bouler. Je me rappelle même d'un journaliste de Tétu qui m'avait dit « Non, mais votre histoire, elle n'intéressera pas nos lecteurs. Bye. » Je l'ai encore, ce mail. C'est violent, c'est vachement violent. Pour un
têtu. Hein. On est bien.
Pour un média communautaire.
Voilà. Ça vient bien de têtu. Je le rappelle. Oui. Je remets le doigt dessus.
Oui. Après, la rédaction a changé. C'est plus la même équipe du tout. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. On parle de têtu, mais il y avait d'autres médias aussi. Les associations, pareil. Enfin, bref.
Et pourtant, on ne parlait pas de pansexualité à l'époque.
Non, on n'en parlait pas.
On est en 2012. On parle évidemment d'homosexualité. On parle de bisexualité éventuellement, mais pas de pansexualité.
Non, on parle de bisexualité. Oui. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que quelques années après, tu as deux associations qui ont commencé à en parler. Tu as le MAC Jeune LGBT,
oui.
Et tu as Bicause.
Et Bicause, oui. Qui a été très important dans ta vie d'ailleurs.
Et qui l'est toujours, oui. Toujours adhérent à Bicause. Mais oui, très. Oui, parce que du coup, on a porté tout un tas de choses autour de la pansexualité. Mmh. On a fait évoluer l'association. C'était une association bi, hein, avant, qui déjà incluait la notion de pansexualité dans sa définition de la bisexualité. Donc, il y avait une part un peu avant-gardiste, hein, chez Bicause, même si le terme de pansexualité n'était pas cité.
Est-ce que tu peux peut-être repréciser, selon toi, qu'est-ce qu'est la pansexualité ? On n'en a parlé qu'une seule fois dans ce podcast. C'était au tout début de la création du podcast avec Firmin, qui nous a parlé de sa pansexualité. Mais c'est assez rare et peut-être qu'il y a plusieurs petites variantes dans la définition.
C'est être attiré par une personne sans considération pour son genre.
Ni son genre assigné à la naissance.
Sans considération pour
du genre. Point.
Point. Peu importe ce que tu as sous la ceinture, c'est pas le sujet. C'est pas ce qui va nous attirer. C'est une définition, oui, qui a pu évoluer. Moi, en 2012, toi, par exemple, c'est la phrase qui avait été retenue pour l'accroche de l'article « J'aime les hommes, les femmes, les trans ». Bon, bah, aujourd'hui, c'est maladroit de dire ça. On va plutôt préciser les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, parce qu'on est d'accord, une femme trans, c'est une femme, point. Pas besoin de préciser que c'est qu'elle est trans ou pas.
Un homme trans est un homme.
Exactement. Et j'avais cité ça dans l'article pour expliquer un peu ce que c'était. Bon, c'était...
Et tu te prends...
Aujourd'hui, je le dirai plus
et tu
comme
te
ça.
Prends, à l'époque, des commentaires ultra négatifs. Pourquoi pas les singes et pourquoi moi je fais ça avec des mouches, c'est pareil, je suis pansexuel, etc. Des choses, mais d'une violence inouïe. On se prend ça en pleine poire. Comment tu réagis à l'époque?
Tu sais, Nicolas, quand t'as passé beaucoup d'années à t'en prendre plein la gueule, limite, c'est anecdotique. Ça reste violent, mais par contre, ce qui m'a le plus touché, c'est les commentaires. C'est les réflexions de ma propre communauté.
Ah ouais?
Ouais. Ça m'a fait le plus mal. C'est le fait que les médias me snob, que les associations aussi, ça fait plus mal à la rigueur.
Parce que t'étais
on
pas
a voulu,
parce...
on a cherché à m'invisibiliser, hein,
parce que
à
quoi,
travers
parce
ça.
Parce que quoi? Parce que t'es pas un vrai gay, c'est pour ça? Est-ce que tu ne rentres pas dans une même case que tout le monde?
Il y a ça, il y a aussi le fait d'avoir précisé personne trans, où il y a des personnes trans qui sont venues aussi m'insulter sur les réseaux. Les réseaux, c'était Facebook à l'époque, oui. C'était le réseau principal, hein, il n'y avait pas Insta, etc. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal, tu vois. C'est ce qui m'a... parce que l'intention était d'en parler, de pouvoir aussi visibiliser tout le monde, et du coup, on m'a foutu une claque pour ça.
Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'intolérance dans la communauté LGBT?
Beaucoup, je ne sais pas, mais oui, il y en a, mais c'est un travail aussi qu'on doit faire entre nous. Mmh. Par contre, moi j'insiste, hein, le linge sale,
ça se lave
en famille,
oui.
C'est entre nous. Pas besoin d'en parler dans les médias ou je ne sais quoi. Oui, bien sûr qu'on a des désaccords dans la communauté. Heureusement qu'on a des désaccords. Par contre, il faut qu'on arrive à se poser autour d'une table et à discuter et à échanger. C'est comme ça.
Se comprendre.
Bien sûr. Souvent, si on n'est pas d'accord, souvent, pas à chaque fois, des fois c'est plus profond que ça, mais souvent quand on n'est pas d'accord, c'est parce qu'on ne comprend pas le sens de pourquoi on fait ça, pourquoi on choisit pourquoi on a telle ou telle posture.
Un petit peu plus tard dans ta vie arrive Le Refuge, on est en 2015, et Et là, va se mélanger aussi, pour le coup, la musique, qui va vraiment entrer dans la lutte, dans les luttes, devrais-je dire, que tu portes, avec le titre « Grandir en paix » que tu vas faire pour Le Refuge. Comment ça se passe, ce travail que tu fais avec Le Refuge? Il y a une rencontre, j'imagine, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et puis tu as une envie de mettre cette association, qui n'est pas encore ce qu'elle est maintenant, en avant.
Ce n'était pas une fondation à l'époque.
C'était
encore une association. Je rencontre par hasard Joanne Caviro, qui aujourd'hui est président de FLAG. Je lui parle du projet. Je voulais faire une chanson pour Le Refuge. Je voulais faire une chanson, mais je ne voulais pas écrire la chanson.
Ouais.
Donc, du coup, on a eu l'idée de faire un atelier d'écriture avec les jeunes de l'association.
D'accord.
Il y a plusieurs délégations qui ont participé. Ensuite, moi, j'ai un petit peu mixé toutes les idées. Et puis, le texte « Grandir en paix » est sorti. On l'a enregistré avec quelques jeunes et quelques bénévoles. Et du coup, ça a fait une chanson et un clip.
Comment c'est reçu, ça, au niveau de la communauté?
Plutôt bien.
Ouais.
Ah, pour le coup, Têtu, on a parlé.
Merci, Têtu.
Têtu, Garçon Mag, comment tu peux ne pas approuver un projet comme celui-ci qui est fait en collectif avec une association? Ça, c'était pas moi le sujet, c'était les jeunes.
C'était l'asso.
Les jeunes et l'asso, ouais. Donc, c'est comment on peut ne pas être d'accord avec ça? Donc, c'était un clip qui avait bien marché, qui avait été partagé par plusieurs personnalités, qui avait dépassé les 10 000 vues en quelques jours seulement. Alors, pour l'époque, c'était pas mal,
c'était
déjà.
C'était beaucoup, hein, pour l'époque.
Et
on est en 2014, je crois, 2012-2014.
Je te crois. Peut-être. Voilà. En tout cas, c'était... Oui, c'était un beau projet.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était mon premier contact direct avec une association, ouais.
Un petit peu plus tard, et moi j'aime bien te qualifier d'artiste, parce que dans artiste, et je trouve que c'est ce qui te qualifie, il y a quelque chose de très polymorphe et d'extrêmement touche-à-tout. Et ça, j'aime bien ça chez toi. Tu t'es même essayé un court-métrage.
Ah, je l'ai même réalisé.
Voilà.
Je parle de Coming Alive. Coming Alive.
C'est un court-métrage de témoignage. Très clairement.
Un recueil.
C'est un recueil de témoignages. C'est une sorte de livre ouvert, mais cinématographique.
Oui.
C'est comme ça, en tout cas, que tu le conçois. C'est comme ça que nous, on le reçoit, ce film, Coming Alive. Là, c'est encore une nouvelle aventure. Qu'est-ce qui te donne envie de partir vers cette aventure-là? Parce que, en fait, tu ne t'arrêtes jamais.
Écoute, c'était, je crois, le besoin... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, des témoignages d'agression, d'LGBT-phobie, on va en entendre plusieurs. Tu as plusieurs médias, dont Pent, hein, qui en fait aussi. Mais l'idée,
c'est... Est-ce qu'il faut en parler pour qu'elle cesse?
Bien sûr, il faut les visibiliser, ces agressions. L'idée, c'était de créer un outil pédagogique à destination des salles de classe.
Oui.
Et donc, c'est un outil, ou c'est un film qui est disponible... par les profs, enfin, par tout le monde, hein, en réalité, qui veut projeter le film. Il a vraiment été conçu comme un outil, à peu près 15 minutes de film, plus 45 minutes de débat. Donc ça rentre dans une heure de cours. Et donc c'est plusieurs témoignages de victimes de LGBT-phobie.
Qui racontent l'acte en lui-même.
Oui. Oui.
Ce qui est très rare, parce que souvent on parle de la reconstruction après. Mais là, c'est la description même de la violence.
Ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est qu'on n'avait aucune trame. Les personnes qui ont voulu témoigner avaient carte blanche pour parler.
D'accord.
Voilà. En fait, la question c'est, raconte-nous ton histoire, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as vécu ça. Pratiquement à chaque fois, le harcèlement en milieu scolaire est cité. Pratiquement à chaque fois. Aussi, tu as une notion internationale dans ce documentaire. Tu avais une personne trans aujourd'hui, du tournage, aujourd'hui elles sont trois. Tu vois, déjà, il y a aussi des personnes qui ont commencé une transition
après.
Et le côté international, il y a une phrase de Zach qui dit « Moi j'ai quitté mon pays pour pouvoir vivre mon orientation sexuelle, parce qu'il venait d'Algérie. » Et en France, il se fait violer, filmer, séquestrer en France.
Est-ce que toi, à ce moment-là, au moment où tu tournes Coming Alive, est-ce que tu ça te renvoie aussi à toute la violence et au déferlement de haine que tu as pu subir durant ces 5 années de collège.
Le témoignage de Sébastien, c'est pratiquement la même histoire que moi.
C'est le copier-coller de ce que tu as
dit. Et je me rappelle parce que, du coup, c'est moi qui ai tourné avec Sébastien. Et j'avais la caméra et je le voyais. J'écoutais son témoignage et derrière la caméra, j'avais les larmes qui coulaient. Ça a été, je crois que ça a été le cas pour toutes les personnes que j'ai filmées. Il y en a certaines aussi se sont filmées. Hein. C'était aussi le principe de faire une sorte de patchwork de ces témoignages pour pas que ce soit quelque chose de monté, de fabriqué.
De trop conventionnel non plus.
Que ce soit complètement authentique. Et donc, tu as même des personnes qui se filment en mode selfie et qu'on a incorporé au film. Bien sûr, je me suis reconnu dans son histoire.
Une autre date extrêmement importante pour toi, et je l'ai choisie parce que, de façon assez symbolique, elle marque une sorte de retour. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. C'est 2018. 2018, c'est ton engagement pour la marche des fiertés de Châteauroux, dans l'Indre, la toute première. Et si je l'ai choisie, c'est parce que tu es originaire du Berry et que c'est quelque part... Et c'est la question que je vais te poser, est-ce que la boucle n'est pas bouclée à ce moment-là ?
Comme une petite revanche ?
Comme une grosse revanche, sur la vie, notamment.
Je crois que oui. Je crois qu'en effet, le fait de parrainer cette marche, c'est la première marche, c'était la marche des diversités LGBT, ouais. de mémoire, qui a lieu dans la ville où j'étais au lycée.
Châteauroux.
Oui. C'est pas la ville de mon collège.
Oui, mais c'est la ville
de ton lycée. Je crois que je n'aurais pas pu faire celle d'Issoudun.
Mais c'est la ville de ton lycée quand même, et c'est le même territoire, c'est le même département.
Exactement. Ouais.
Un département, tu l'as dit, tu parlais de
dans
de
lequel
ruralité,
il n'y avait aucun établissement LGBT.
Voilà.
Aucun. Où j'avais personne, je ne connaissais personne.
Il y a à Châteauroux aucun établissement LGBT ?
Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne pense pas, mais à mon époque, il n'y en avait pas.
On vient te chercher pour cette marche des fiertés ou c'est toi qui leur propose ton aide ?
J'avais rencontré un peu par hasard Emmanuel Lecarteron, qui était le président du Berry LGBT. Mmh. Et non, je crois que c'est moi qui lui ai demandé. Je crois que soit je lui ai demandé, soit je lui ai soufflé l'idée. Mais ou alors peut-être, ça serait bien, on pourrait faire ça et tout. Et, mais en tout cas, ouais, ça a été un beau cadeau. Qu'il m'a fait.
Comment s'est vécue une marche des fiertés à Châteauroux, qui plus est une première en 2018, parce que c'est la première marche des fiertés.
400 personnes quand
400
même.
400 personnes. Donc dans une ville qui fait 40-50 000 habitants, comment s'est vécue une marche des fiertés comme ça, avec 400 personnes qui défilent, qui font la fête, comme si c'était la marche des fiertés de Paris. Comment les gens le voient et toi, comment tu vois ça, comment tu vis ça à ce moment-là ?
Alors, c'est pas la marche des fiertés de Paris. Hein. C'est,
bien sûr.
C'est pas du tout la même
échelle. Il n'y a pas des chars, etc.
Il n'y a pas de chars. Il y a du folklore, mais c'est du folklore avec les moyens du bord, hein, qui ne sont pas les moyens de l'intérêt LGBT. C'était, ça a été émouvant. De voir qu'une ville comme Châteauroux pouvait regrouper plusieurs centaines de personnes. D'autant plus que les médias locaux ont joué le jeu. Hein, Bip TV, France Bleu, La Nouvelle République. Enfin, même les médias locaux ont joué le jeu, en ont parlé. Et ça a permis justement de visibiliser les combats dans ce secteur. Et il y en avait besoin.
Et pour toi, une petite fierté à ce moment-là quand même ?
La petite fierté de dire, voyez tout ce que vous m'avez fait subir durant ces années. Et bien, ça a eu ça comme conséquence chez moi.
Toujours debout ?
Ça m'a toujours debout, la rage au ventre, de vouloir me battre encore et encore pour mes idées, pour l'égalité des droits, bon sang. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande.
L'égalité des droits et tes idées, tu les as au quotidien, puisque tu es salarié d'une grande association aussi à Paris. Ton travail consiste en quoi au quotidien ?
L'accompagnement communautaire dans une association qui s'appelle AIDE.
AIDE, tout simplement. Ouais.
On peut en parler depuis 4 ans. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'était un petit peu par hasard où j'ai postulé. Et puis, j'avais un petit peu raconté à mon entretien tout ce que j'avais fait, tout ce que je voulais faire. Et puis, ils m'ont pris. Et puis, ça devait durer un mois.
Et si finalement, ça fait déjà 4 ans.
Attends, mais c'est ça, ça devait faire un mois. Après, encore un mois. Bon, OK. Après, un an.
D'accord.
Puis après, ils font, si tu veux, on peut faire signer un CDI. Bon, d'accord, allez.
Allez-y, je suis bien finalement.
Bah, ouais.
On fait des choses sympas. Et qu'est-ce que tu fais de sympa?
Mais toi, c'est marrant parce que moi, au départ, je voulais y aller parce que j'étais déjà engagé à Bicose.
D'accord.
Et on avait un pôle santé dans lequel je n'étais pas du tout impliqué parce que j'y connaissais rien. Enfin, je connaissais la base.
La
quoi.
Base, oui.
Mais du coup, j'y allais pour monter en compétences, pour me dire, je vais apprendre plein de choses et je vais pouvoir.
Je serai en meilleur à Bicose. Ouais.
Exactement. Mmh. Et puis, du coup, tu vois, finalement, mais c'est une association qui m'a beaucoup changé.
En quoi?
Sur le jugement, sur le regard qu'on peut porter à certaines catégories de personnes. Ça m'a fait rencontrer des personnes que je ne côtoyais pas, travailleuses du sexe, par exemple.
Ton regard a changé sur les TDS?
Oui.
Qu'est-ce qui a changé?
Je pense que je devais avoir avant une posture dite abolitionniste, sans prendre parti ou quoi que ce soit. C'est plus un formatage,
oui.
J'ai envie de te dire. Et déjà, tu as un cadre de travail qui est non-jugeant, bienveillant, le fait de pouvoir changer d'avis à tout moment, et le fait de dire on n'est pas là pour juger le travail. Considérer que tu as des personnes pour qui ce n'est pas un choix, pour qui ça l'est. Mais dans tous les cas, on n'est pas là pour juger et on est là pour les accompagner.
Pour aider.
Pour aider. En tout cas, les accompagner, que ce soit parcours de soins, parcours administratif et tout. Ça m'a changé aussi par rapport au regard de d'autres populations migrantes, par exemple. Et c'est vrai que tous ces publics vulnérables, donc migrants, travailleurs du sexe, personnes trans aussi, consommateurs de produits, j'avais un regard un peu naïf, très, très formaté. Et il y a quelque chose que tous ces publics ont en commun, c'est la précarité. Et au final, ce qu'on combat dans cette association...
C'est la précarité. Il y a un vrai enrichissement à travailler
oui.
Dans une structure comme AIDS.
Oui, oui. Mm. Ça, c'est le cadre qui est appliqué, l'éthique de l'association. Du coup, ça, c'est valable pour ton espace de travail, mais tu te rends vite compte que ça a un impact sur ta vie au quotidien, même quand tu ne travailles pas.
Ouais.
Le fait d'avoir une posture... Édienne, comme on dit, qui va avec le non-jugement, la bienveillance, le fait de considérer d'égal à égal.
Tous les êtres.
Oui. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend dès le plus jeune âge. Hein.
Je voudrais qu'on vienne sur une dernière chose, et pas des moindres, c'est ta carrière musicale. Parce qu'on a parlé du militantisme, mais il y a aussi le volet Christophe artiste. Premier contact avec la musique, tu t'en souviens?
En troisième.
C'est vraiment là où le déclic se fait?
Oui. Première fois où tu tiens un micro sans fil. Première fois que je vois un micro sans fil, comme à la télé. C'était au Palais des Congrès à Strasbourg.
Ouais.
Et tu chantais première scène, 2000 personnes. Et tu te dis, c'est un monde qui est tellement différent du quotidien que je vis au collège.
Un échappatoire?
Complètement. Donc ça a été le début de tout. Hein. Mais tout vient de la musique, en réalité.
Je regardais tous tes albums, et tu as commencé très tôt à en faire, mais tous, sans aucune exception, sont militants. Tu t'en rends compte, ça? Même le dernier, Pride. Il est évidemment militant.
Bien entendu,
il ne peut pas être plus militant.
Je crois que c'est le plus militant parce que justement, il vient symboliquement fêter les 10 années de ce fameux coming out et de tous les engagements associatifs que j'ai eus depuis cette dernière décennie.
Il est beaucoup plus rock, Pride, que les autres, étonnamment
oui.
D'ailleurs.
Oui.
Je ne m'attendais pas du tout à ça. On va en écouter un extrait pour terminer le podcast. Mais je ne m'attendais pas du tout à un album aussi rock'n'roll. Mais est-ce que finalement... Pour militer, pour dire des choses, est-ce qu'il ne faut pas être rock'n'roll?
C'est un style que j'aime parce que c'est pop et rock. Hein.
Oui, bien sûr.
Dans le côté pop, il y a le côté populaire.
C'est pas du Metallica, c'est ce que je veux dire.
Tout à fait. Il y a ce côté populaire qui me plaît, qui me donne cette liberté de pouvoir chanter comme je le souhaite, dans la langue que je veux, Là, c'est un album qui est entièrement en anglais. Alors, on va me dire, oui, ton accent, tu sais, ça, c'est typiquement français. Les Français adorent critiquer l'accent. Et enfin, porter un jugement sur ça. Et
oui, enfin, tu l'aurais fait en français, on t'aurait dit, oui, mais le rock'n'roll, c'est la pop, ça se fait en anglais et pas en français. Donc, on aurait toujours trouvé quelque chose.
Mais de toute façon.
Donc, il a fallu faire un choix. Tu as fait celui de choix de parler en anglais.
Tu vas aux États-Unis, jamais on te fera la réflexion. La moindre réflexion sur ton accent. C'est un album qui a assumé, oui, je suis français, j'assume complètement d'être français, je suis un français qui chante en anglais, bah, j'ai un accent, bah, oui, en même temps, c'est normal, c'est pas ma langue maternelle. Mais c'est quelque chose, ça me permet, avec cette langue, de pouvoir m'adresser à ma communauté dans le monde entier. Lorsque je vais à l'étranger, je vais voir, une première chose que je fais, c'est aller voir les centres LGBT, San Francisco, Londres, etc. Enfin, tout, là où quand je peux voyager, quand j'ai le temps surtout, je vais dans les quartiers voir un peu, m'imprégner de la communauté pour voir comment, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'ils font. Et à travers ce projet-là, ça me permet de pouvoir envoyer une chanson. Même sur Insta, on peut parler à d'autres artistes partout dans le monde et s'écouter.
Et les réseaux sociaux ont facilité la diffusion de tes chansons.
Les réseaux et même les plateformes de streaming. Alors, c'est vrai que elles ont. Bon, c'est bien et moins bien aussi. L'avantage, c'est que du coup, tu peux facilement mettre à disposition, faire connaître. Bon, l'inconvénient, c'est que comme on est beaucoup à le faire, tu touches pas grand-chose.
C'est-à-dire qu'en plus, il faut se faire repérer parmi tout le monde.
Aussi.
C'est ce qui est pas. Qui est peut-être d'ailleurs la chose la plus difficile.
Mais quand iTunes est arrivé, on était quand même bien contents de pouvoir montrer sa musique.
Quels vont être les prochains projets ? Parce que des albums, tu en as fait quelques-uns. J'imagine que tu foisonnes encore de...
Il y a une tournée.
Il y a la tournée. Ouais,
que j'ai commencé, on a fait le premier concert à la Marche de Tours, avec le centre LGBT de Touraine.
Tu as besoin de retrouver ces racines-là, ces bouts de
racines.
C'est
très important. Je suis très attaché au symbole aussi, symbolique. Parce que oui, j'ai vécu des moments durs à Châteauroux, enfin dans le Berry, mais aussi des bons moments. Et puis, déjà, j'aime pas rester sur des mauvais avis ou sur des mauvaises choses. J'ai besoin d'un happy end. Et oui, c'est marrant de commencer à Tours. Mais en fait, tu sais comment j'ai commencé le concert à être en contact avec le centre LGBTI de Touraine. C'est à l'époque où il avait besoin d'argent parce qu'il était à deux doigts de fermer. Et on était en pleine tournée avec Valérie Beau et Augustin Abran. On a fait la tournée des possibles et on s'est dit, on va faire un concert à Paris, on va inviter le centre et on va faire au bénéfice du centre. Quelques années après, ils viennent à la projection de Coming Alive à l'Assemblée nationale. Et le président de l'époque me dit ce serait bien que tu viennes faire un concert et tout à Tours. Ok, pas de souci, on fait ça quand vous voulez. Donc il me contacte pour la Pride. J'ai dit oui sans hésiter.
Et t'as bien fait.
Oui, parce que c'est aussi ma ville. Je suis un enfant du Berry.
Qui a fait ses études à Tours.
Qui a fait ses études à Tours et qui aujourd'hui vit à Paris. Mais en fait, je me considère pas comme parisien. Je me considère comme, je sais pas, comme français.
C'est déjà pas mal, déjà.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà bien.
Et je trouve que c'est ce que j'ai pu construire à Châteauroux ou à Tours ou à Paris, c'est quelque chose que j'ai envie d'exporter dans des régions que je connais moins. Là, tu vois, je vais faire Reims avec Ex Aequo. Dans quelques mois, on fait Chambéry. Il y aura d'autres dates, mais je peux pas trop te le dire encore. Mais l'idée, c'est d'aller voir ma communauté, d'aller voir les associations. Parce que tout ne se passe pas à Paris. Ça, c'est une évidence. Et il y a de très belles choses ailleurs.
En province.
Il paraît qu'il ne faut pas dire en province. Ça fait un peu parisien comme expression.
Mais je suis très provincial quand même.
Dans toute la France.
Cet album Pride, il vient aussi, tu l'as dit tout à l'heure, en point d'orgue, en point final. En tout cas, pour célébrer les 10 ans de ton militantisme, rassure-nous, Christophe, c'est pas le dernier.
Non, il y en a un qui est en préparation. Il y a un titre qui va sortir dans quelques jours, pour les 10 ans du mariage pour tous. D'accord. Encore 10 ans.
Encore 10
c'est
ans.
Comme tout s'est enchaîné marrant, il y a 10 ans, du coup, 10 ans plus tard, tout serait enchaîné de nouveau. Et ça, c'est marrant que tu me parles de ça parce que des fois, j'anticipe peu comme garçon, mais des fois, j'anticipe. Et il y a 10 ans, pendant les manifestations en faveur du mariage pour tous,
en faveur. Hein.
Oui, je précise.
Oui, manifestation
je n'ai
en
pas
faveur.
Été à la manif pour tous, mais pour les manifestations en faveur de du mariage pour tous, j'avais filmé des rushs. Et en fait, là, sur la chanson qui va sortir bientôt, qui s'appelle « Ou autrement », qui parle justement, c'est une chanson que j'aurais pu écrire à 10 ans, qui parle de ça, justement. Et le clip qu'on est en train de préparer va reprendre des images de ces manifestations.
De l'époque.
De l'époque, oui.
Dernière séquence du podcast, tu la connais, c'est le mot de la fin. Et c'est à toi.
Je parle au mois de... d'il y a une vingtaine d'années. Ne lâche rien, accroche-toi, entoure-toi de personnes qui t'aiment. Et ceux qui t'aiment pas, eh ben, tant pis pour elles.
Christophe, le mot de la fin, ça pourrait être un mot en chanson. On ne l'a jamais fait.
Allons-y.
Si on en choisit une dans Pride...
Free Hugs.
Merci Christophe.
Merci à toi.
I wanna lose myself in a crowd among strong and comforting arms, warm and close, embraces galore, simply be forsaken no more. I don't give a fuck about gold, and they can just keep their money. I'd rather leave our story bold. No wake, no fake, my blood, my community. My blood, my community. I just need you, love, love, love. The bubble, I just need your love. I just need your love. Could we be one, once and for all? Fucking free hugs. That's all. Energy from body to body, excited and thrilled we would be. Like a tidal wave expanding, like an orgy, a new beginning. Stardom, you can't forget. I fall for this wrong human flame. Only with true people can get, yeah. People can get, yeah.
c'est tout pour ce 63e épisode de Ces Garçons-là. J'espère que vous avez apprécié rencontrer Christophe et remonter peut-être aussi notre histoire à tous finalement dans ce 63e épisode de Ces Garçons-là. Un point très important sur lequel j'insiste avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec une autre rencontre, eh bien, c'est la notation du podcast sur Apple Podcast ou sur toute autre application d'ailleurs. Vous savez, ces petites étoiles, vous pouvez noter le podcast. Si vous le faites, et si vous le notez bien, eh bien, sachez-le, c'est très très important pour nous puisque ça fait énormément progresser le podcast. Merci à tous de votre fidélité parce que chaque semaine vous êtes extrêmement nombreux à nous rejoindre et à écouter le podcast, à l'attendre même le dimanche matin. Merci de votre fidélité en tout cas. Tout ça nous va droit au cœur et vient aussi peut-être remercier et satisfaire le travail et le temps passé important. Pour ce podcast. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un 64e épisode